avait pas de nuit, il n'y avait pas de jour, je n'ai pas vu la lumière du jour pendant toute cette période. Pas peur de la mort, peur de souffrir. J'avais fait promettre à mes ravisseurs que s'ils devaient me supprimer, ils le feraient proprement, sans me découper en morceaux. Et pourtant, ils avaient quand même commencé à me découper en morceaux. Donc, un doigt en moins, c'est tout. Pas grave. Finalement, ça sert pas à grand-chose, hein, ce petit doigt.
Bonsoir. 63 jours de captivité. Pas un record, certes, en matière d'enlèvement, mais ce rapt-là est rentré à coup sûr dans l'histoire du crime. Tant aujourd'hui, 43 ans après les faits, il réserve encore son lot d'interrogations et de révélations, comme si tout n'avait pas été dit sur cette affaire. Le rapt du baron Édouard-Jean Empain au mois de janvier 1978. La légende va évidemment retenir l'histoire du petit doigt coupé de ce jeune et riche capitaine d'industrie, héritier d'une puissante dynastie d'entrepreneurs, épisode qui va quelque peu occulter la longue enquête policière, les tractations, le drame privé également que se jouait au sein de la famille Empain. Ce sont ces arcanes que nous allons explorer ce soir, une partie de l'envers du décor en quelque sorte. Nous allons le faire avec deux invités exceptionnels, témoins et acteurs directs de cette tragédie. André Bizel, le commissaire qui était aux commandes de l'enquête et qui raconte minute par minute dans un livre Les Investigations, et puis Diane Empain, la sœur d'Édouard-Jean Empain, qui était bien sûr aux premières loges de cet enlèvement.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'enlèvement du baron Édouard-Jean Empain à l'hiver 1978. Un rapt à l'italienne, celui d'un grand patron en plein Paris, dans les beaux quartiers de la capitale. Un homme qui n'avait fait l'objet d'aucune menace. Il est 10h20 précise, ce lundi 23 janvier 1978, quand le baron Édouard-Jean Empain, vêtu d'un costume droit et cravaté, un manteau et des journaux sous le bras, sort de chez lui. Un immeuble moderne et luxueux au numéro 33 de l'avenue Foch. Il vit ici avec son épouse Sylvana, le couple a trois enfants, Patricia, Christine et Jean-François. Le baron s'engouffre à l'arrière de sa Peugeot 604 de fonction et ouvre les journaux, en premier lieu le Figaro. Le chauffeur du baron, Jean Denis, démarre et emprunte à faible allure la contre-allée déserte à cette heure-ci. Direction le numéro 42 de la rue d'Anjou, le siège parisien d'Empain-Schneider, groupe que dirige à 40 ans l'héritier de la dynastie. La voiture parcourt une cinquantaine de mètres quand le chauffeur fait une embardée. Devant lui, un homme juché sur un cyclomoteur zigzag dangereusement, puis chute sur la chaussée. « Il est fou celui-là » s'exclame Jean Denis, qui pile. Le baron lève furtivement les yeux au-dessus de son journal, le temps d'apercevoir une estafette Renault bleue, de laquelle surgissent trois hommes cagoulés et armés de pistolets mitrailleurs. Ils sont déjà là. L'un d'eux agrippe le chauffeur et le jette dans l'estafette. Les autres s'installent dans la 604. On recouvre les yeux et la bouche du baron de sparadrap. On enfile une cagoule sur sa tête. On le menotte. Il n'entend que ces mots. « Si tu ne fais pas tout ce qu'on te dit, on te bute !» La brigade criminelle est alertée une heure après le rapt. Le chauffeur Jean Denis, abandonné place Maillot, a foncé dans le premier commissariat venu. Les policiers ne connaissent pas ce Édouard-Jean Empain qui ne fait pas la une des journaux. Fortune très discrète de l'industrie. Ils n'en sont pas moins inquiets et concentrés. Les enquêteurs se présentent au 33 Foch. Ils sont reçus par la baronne Sylvana. Selon elle, Wado, le surnom familier d'Édouard-Jean Empain, ne faisait l'objet d'aucune menace. Il a des concurrents, l'ambiance est dure dans le monde des affaires, mais des ennemis, non, non, je ne vois pas, témoigne l'épouse. L'estafette bleue est retrouvée, elle avait été volée à un plombier, la 604 également, dans un parking souterrain, mais les deux véhicules ne parlent pas. Aucune empreinte, l'ADN alors n'existe pas. Terroriste ou malfrat, c'est un travail de professionnel. Bonsoir André Bizel.
Bonsoir.
Empain, le rapt, le récit de l'enquête. Je l'ai sous les yeux, c'est un livre qui paraît demain chez Marie Édition. Je m'empresse de dire que c'est un livre formidable, avec un récit incroyable et palpitant. On est vraiment au cœur de l'affaire et il faut vraiment lire ce livre, Empain, le rapt, qui sort encore une fois demain en librairie. Merci de nous en avoir donné la primeur ce soir dans l'heure du crime. Alors, vous êtes à l'époque commissaire à la crime, et c'est vous qui allez être en charge finalement de ce dossier qui part sur les chapeaux de roue, si je puis dire, dans cette contre-allée de l'avenue Foch. Quel est votre sentiment à l'époque, quand vous avez cette affaire? Vous pensez à quoi immédiatement? C'est des gangsters, des terroristes?
D'abord, merci de me recevoir, merci pour vos compliments. Lorsque l'affaire démarre, c'est quand même, pour moi, qui suis depuis 5 ans à la brigade criminelle, la 11e. Donc, c'est encore un enlèvement. Au début, c'est un peu banal. Sauf lorsque nous apprenons la personnalité, qui est ce baron Empain, et là, tout de suite, on pense à diverses pistes, parce que nous avons en Allemagne Hans-Martin Schleyer.
Exactement.
Alors que le baron Empain lui-même...
Le patron des patrons qui a été tué. Hein.
C'est NPF, quoi. Voilà. Donc, on peut se dire, c'est sans doute quelque chose de politique.
L'affaire Révelli-Beaumont aussi, le patron de Fiat.
Et l'affaire Révelli-Beaumont, que j'avais traité, d'ailleurs, avec la Fiat. Ce qui nous fait dire qu'avec les grosses sociétés, il va falloir qu'on fasse très attention, parce que la Fiat nous avait doublé pour verser la rançon. Donc, on part quand même sur quelque chose qui va être délicat.
Qui est sensible, sensible et délicat. Vous avez le sentiment que cette équipe de ravisseurs est très organisée, bien organisée. Elle a fait des repérages, fatalement.
Au départ, on ne sait vraiment pas d'où cela vient. Toutes les recherches qu'on fait lancer par les services spécialisés, par la BRI, par tous ceux
les
qui
RG,
ont...
Les renseignements généraux.
Les renseignements généraux, tous ceux qui ont des touches, j'allais dire, dans le milieu, ça ne donne rien.
Ça ne sonne pas, les sonnettes
ne sonnent pas. Par contre, comme on sait que le président de la République lui-même s'intéresse à l'affaire, son épouse étant une descendante Schneider, étant actionnaire, le président Giscard d'Estaing n'ayant pas aimé du tout que le baron arrache à la hussarde...
Ah oui, donc il y a un poids politique aussi sur vos épaules.
Oui, parce que dans le groupe Schneider, il y a Framatome, il y a l'atome,
bien sûr.
Et tout d'un coup l'atome est dans les mains d'un Belge. Donc on se dit, attention, n'y a-t-il pas une manœuvre? On l'a vu quand même,
bien
des
sûr.
Histoires politiques très graves. Quoi,
tout à fait.
Alors on en est là. Grave politique français, grave terroriste international, malfaiteurs,
on est
dubitatif.
Vous êtes un petit peu dans le noir, dans le black, comme on dit. Hein. Bonsoir Diane Empain.
Oui, bonsoir, merci.
Merci à vous d'être ce soir, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes la sœur, je le précise, du baron Empain. Diane Empain, vous allez être, évidemment, je le disais en présentation, aux premières loges dans cette affaire, malgré vous, évidemment. Vous vous souvenez, Diane, de cette journée, de l'enlèvement de votre frère, évidemment?
Complètement. D'abord, je tiens à vous expliquer un peu le contexte. Je vis avec ma mère, on va dire, dans le Val d'Oise. Donc, le bureau appelle systématiquement ma mère en indiquant que son fils, c'était la secrétaire qui s'appelait Madame Lacombe, qui appelle ma mère en disant « Votre fils a été kidnappé ». Au point de vue information, c'était à peu près vers midi.
Oui.
Donc ma mère, qui est quand même une personne qui ne panique pas, qui raisonne, immédiatement, bon, on a échangé, et elle m'a indiqué, mon fils est parti au front.
Mais ça veut dire quoi ça, Diane Empain, en quelques mots, juste en quelques mots, ça veut dire quoi?
En quelques mots, je ne sais pas exactement, d'abord parce qu'elle est américaine et donc elle a des interprétations en disant mon fils certainement est parti à la guerre, enfin c'est ce que ça voulait dire, elle a des interprétations, donc elle était très très froide,
oui.
Parce que c'est une femme froide. On a échangé avec elle et immédiatement je lui ai posé la question en disant qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois que le principal c'est d'aller rue d'Anjou afin de voir, pardonnez-moi le terme, un peu ce qui se passe et quelles sont les orientations.
Et bien sûr vous allez aller rue d'Anjou. La CRIM va très rapidement avoir des nouvelles, des ravisseurs, une équipe qui veut beaucoup d'argent et qui ne plaisante pas. Dans un premier colis, un tout petit bout du baron Empain, une phalange. Mardi 24 janvier, lendemain de l'enlèvement, l'événement fait la une des journaux. France Soir titre « Le rapt éclair du baron Empain au 36 quai des Orfèvres ». On s'agite dans tous les sens. À 13h10, un interlocuteur anonyme appelle la société Empain-Schneider. Rendez-vous est donné à la consigne de la gare de Lyon, le casier 595. À l'intérieur, une lettre dactylographiée de demande de rançon. Pas moins de 80 millions de francs. Trois courriers du baron, un pour sa femme, deux pour ses collaborateurs, sa carte d'identité belge et un flacon. Celui-ci contient un bout de doigt, la première phalange de l'auriculaire de la main gauche d'Édouard Jean Empain. Ce dernier ne racontera que bien plus tard cette amputation, les yeux bandés sur un coin de table. Après avoir bu un breuvage anesthésiant, il avait senti le froid d'une lame. Un coup de massicot pour trancher le doigt, aussitôt désinfecté et entouré d'un pansement. Édouard Jean Empain, entravé et bâillonné, venait alors d'être jeté dans un lieu humide, sous une toile de tente, allongé sur un matelas pneumatique à moitié dégonflé. La CRIM du commissaire Pierre Ottavioli, Ota pour les intimes, a désormais un fil qui les relie aux ravisseurs, un fil qu'il va falloir s'efforcer de tirer sans qu'il ne casse. Il s'intéresse aux lettres du baron, curieusement truffées de fautes d'orthographe. Impossible pour les policiers de savoir si ces fautes sont volontaires, ce qui est en fait le cas, ou si celles-ci sont la conséquence du choc émotionnel, ce que croient certains collaborateurs de l'industriel. Les lettres vont se succéder. Édouard Jean Empain dira en avoir écrit une cinquantaine sous la menace. Trois photos Polaroid sont adressées à la famille. Celle d'un homme barbu, hirsute, au regard perdu. Enquête compliquée car dans ses courriers, il est expressément demandé à la famille de ne pas alerter les autorités. Les interlocuteurs, dont l'ami fidèle du baron, Jean-Jacques Bierry, ou son bras droit, René Hingen, sont donc multiples. Les ravisseurs savent que ces hommes ont prévenu la police. Sans la mégalomanie policière, l'otage serait libre aujourd'hui et pourrait être soigné, écrivent dans une lettre. La CRIM travaille sur une liste de ravisseurs potentiels, agite ses informateurs, s'intéresse à la personnalité du baron Empain et il découvre vite sa face cachée, celle d'un habitué des tables de jeu, flambeur, séducteur qui a une riche maîtresse iranienne à Lausanne et loue une garçonnière près des Champs-Élysées. Révélations qui vont laisser des traces profondes au sein de la famille Empain. André Bizeul, c'est vous le commissaire à l'époque de la CRIM qui menait cette enquête et ce dossier. Vous êtes donc parfaitement informé de la marche de ces investigations. Un mot tout de suite, André Bizeul, sur cette enquête privée que vous menez sur la personnalité du baron. Les juges appellent ça une enquête de personnalité. Hein, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans ce cas présent ?
C'est plus qu'une enquête de personnalité. Ce que qualifient les juges de ce terme, c'est l'environnement familial, professionnel d'un suspect, la plupart du temps. Nous, nous étions obligés, puisque nous n'avions aucune touche sur tout le milieu des voyous. Bien sûr, il n'y avait pas que Paris qui travaillait dessus. Nous avions mis la direction centrale de la police judiciaire dans le jeu et elle recherchait aussi partout en province d'éventuels auteurs de le faire. Bon, vous avez évoqué le petit doigt. Dans le même dans le sac de consigne, il y avait des sacs de la Bundeswehr. Alors, vous voyez, ils sont malins. Et oui, parce que là, à nouveau, on pensait à l'attentat terroriste, à la fraction armée rouge et tout le reste. Bon, mais franchement, on s'est dit au bout d'un moment, ça ne tient pas la route.
On nous mène un bateau.
Non, oui, parce que les revendications qu'ils signaient d'ailleurs de tranches terroristes. C'était bidon. On s'est dit, alors, peut-être que ça vient de sa vie, peut-être a-t-il commis une faute quelque part, soit dans le domaine professionnel, parce que le milieu des affaires est dur, et pour des sommes importantes, on peut peut-être aller jusqu'à enlever quelqu'un, et quand on découvre qu'il jouait, alors là on s'est dit...
Il y a peut-être une piste.
Il y a peut-être une piste à avoir avec le jeu, et quand on découvre effectivement ce studio, on s'est dit, là, éventuellement, il y a une maîtresse, il peut y avoir une jalousie. Donc, on a creusé, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire.
Les femmes et le jeu.
Et les femmes et le jeu, si vous voulez.
Mais quoi. Si je vous pose la question, André Bizeul, c'est aussi parce que cette enquête intime, si je puis dire, ou enquête privée, rappelons-la comme on veut, ça lui a fait du mal au baron. Quand il est ressorti, il a mal vécu.
Alors, ce qu'il a mal vécu, je vais vous dire, c'est pas trop qu'on l'ait fait, parce qu'il l'a compris, il l'a admis après. Mais c'est surtout qu'il y a eu des fuites et que tout ça que les journaux, soit passé dans la presse.
Que les journaux s'en emparent.
Ah, que les journaux s'en emparent.
Bien sûr. Diane Empain, la sœur du baron Empain, vous êtes d'accord avec ce choc qui a causé ce déballage et qui va être très long dans le temps, hein. Je crois que votre frère en voudra beaucoup aux journaux et même à la police au début.
Oui, absolument. D'ailleurs, lorsqu'on en parlait très rarement, l'atteinte à la vie privée, à son jardin secret, ça a été une souffrance même jusqu'à la fin de sa vie. Il a jamais admis qu'on puisse le toucher sur sa vie privée. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a très très mal vécu en permanence.
Encore un petit mot, Diane Empain. À cette époque, évidemment, personne ne sait où est le baron. La police est un peu perdue. Comment ça se passe dans votre famille? C'est des réunions permanentes? Vous êtes inquiet? Vous tenez au courant en permanence?
À partir du moment où la brigade criminelle et M. Ottavioli ont pris l'affaire, il est bien évident que on se met, en tout cas moi et ma mère, à la disposition
des autorités.
Bien sûr, on peut pas se permettre d'essayer à droite à gauche.
Bien sûr.
En revanche, pour le groupe, je comprends, il y a des intérêts très importants. La vie privée est mise à nu. On veut protéger, on veut le sauver. Donc il y a nous sommes prêts à verser la rançon.
Il est effectivement décidé que la rançon serait versée, mais les policiers ne veulent pas se faire doubler par la direction du groupe Empain-Schneider. Ils veulent être de la partie et organiser la plus parfaite des souricières. Je n'ai pas l'habitude de dramatiser, mais ma situation est catastrophique. Ils veulent 80 millions ou ils me tuent. C'est simple, va faire la quête. Le temps presse. Peut-être serons-nous sur la paille, Sylvana, mais vivants, écrit le 13 février le baron Empain à son épouse. Les ravisseurs fixent une remise de rançon au 22 février dans le hall de l'hôtel Le Chalet du Mont d'Arbois à Megève. 17 millions en francs suisses exigés. L'APJ décide alors de tendre un piège aux ravisseurs. Le dispositif est baptisé Opération Chasse-Neige par le commissaire Bizel. Des policiers sont déguisés en skieurs et en touristes. Les voitures équipées de plaques d'immatriculation locales avec porte-ski sur les toits. Le collaborateur d'Empain censé remettre la rançon n'est autre qu'un homme du 36, l'inspecteur Jean Mazieri, expert en arts martiaux. Un ravisseur doit lui téléphoner à l'hôtel sous le nom de code Félix le Chat. Il devra lui s'identifier sous le pseudonyme de Jacques Dupont. Mais personne n'appelle. Après 2 jours d'attente, l'opération chasse-neige est levée. Le baron est le premier informé de cette remise de rançon avortée. Un de ses geôliers lui dit « C'est con de flic ! Ils ont cru qu'on allait plonger. Des ravisseurs furieux d'être menés en bateau, ils changent le baron de planque, une demi-heure de route dans un coffre de voiture, puis hissés, menottés dans une caisse, jusqu'à une espèce de grenier, dans un lieu un peu plus confortable, où il entend les bruits d'une basse-cour. Le patron de la crime, Pierre Ottavioli, ne désarme pas. Il insiste auprès de l'état-major du groupe et de la famille pour verser une fausse rançon. Le 21 mars, René Engen, dirigeant le plus en vue d'Empain-Schneider, est contacté par les ravisseurs. La demande de 17 millions de francs suisses tient toujours. Rendez-vous est alors fixé au jeudi 23 mars au restaurant Le Fouquet's. L'inspecteur Mazieri, encore lui, doit cette fois attendre un coup de fil d'une certaine Charlotte Corday. Le jeu de piste, d'adresse en adresse, va durer jusqu'au soir et reprend le lendemain, 24 mars. Cette fois, Mazieri et sa valise remplie de faux billets roulent sur l'autoroute du Sud, s'arrêtent à hauteur de la borne d'appel d'urgence B163 et sort de sa voiture. 2 hommes armés surgissent. Ils s'emparent de la voiture. Ils ne vont pas très loin. Fusillade. Un malfaiteur, Alain Duchâteau, braqueur chevronné, est tué. Son comparse, Alain Caillol, est gravement blessé. L'APJ ne sait pas alors comment vont réagir les ravisseurs. André Bizel, vous êtes le commissaire qui, à l'époque, s'occupe de cette affaire et auteur d'un livre qui paraît demain, livre intitulé « Empain le rapt ». Alors là, on est à un tournant de l'histoire, un tournant capital, avec la mort de ce malfaiteur et puis l'autre qui est grièvement blessé. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette traque qui a été incroyable dans Paris pendant presque 2 jours?
En fait, nous avions déjà eu le même schéma dans d'autres enlèvements. Donc, Robert Broussard, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, mais qui est le bras armé avec la BRI de la brigade criminelle et en lequel Pierre Ottavioli a toute confiance. Mmh. D'ailleurs, vous voyez, dans cette opération de remise, Pierre Ottavioli est dans son bureau et je suis, moi, dans la voiture de Robert qui mène le dispositif. Et il sait très bien le mener. On a les instructions de Ottavioli. Tout le monde est d'accord. On sait que les autorités, et notamment politiques, ne sont pas d'accord avec cette méthode. Il va falloir intercepter ceux qui viennent chercher la rançon. Et quelle rançon ? Parce que vous parlez des 17 millions de francs suisses. Oh, oh, oh. En fait, c'est une fausse rançon.
Bien sûr.
On a confectionné avec un billet dessus, un billet dessous.
De la monnaie de singe, comme on dit.
De gros sacs, quoi. Et lorsque Mazieri, tout d'un coup, se fait à les instructions des ravisseurs pour s'arrêter à un endroit. Il voit derrière lui une dépanneuse, il croit que ce sont eux, il va à leur contact, et en fait, la dépanneuse est là par hasard. Les ravisseurs descendent, prennent la voiture et s'enfuient.
C'est ça.
Tout le dispositif suit, bien évidemment, et là, il s'agit de les intercepter. Or, ce sont eux, les ravisseurs, qui vont donner le top, puisqu'ils vont tenter de s'arrêter devant une porte du mur anti-bruit où les attendent les complices, pour filer, et alors là, nous mettre complètement, nous neutraliser.
C'est-à-dire que là, vous avez la certitude qu'à ce moment-là, vous les perdez s'ils s'engouffrent dans cette porte.
Ah oui, on les perd, parce que si vous voulez, on est tous sur une autoroute. Ils rentrent dans cette espèce de tunnel, ils ressortent à l'autre bout, tout ça se fait à pied, dans quelque chose d'étroit, des voitures les attendent de l'autre côté, on est fichu.
Alors c'est extrêmement bien organisé, on est d'accord,
oui.
Hein, ils ont tout prévu.
Oui,
ils ont tout prévu. Il y a cette fusillade, donc vous présentez, arrêtez police, je suppose.
Ah oui, oui, comme ça. Dès qu'on voit ce qui va se passer, l'ordre est donné d'intervenir, et là la fusillade commence. Bon, on a la chance que sur les deux qui sont venus chercher la rançon, un survit. Et très légèrement blessé. Nous, on a deux blessés, mais j'allais dire, qui m'en excuse, Lahuleg et Berux, mais légèrement. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est un peu positif. Mais rien n'est fait. Ils ont un otage.
Bien sûr.
On a un otage.
Oui.
Alors, qui va gagner ?
Qui va gagner ?
Confrontation.
Pour l'instant, c'est zéro.
Voilà le problème.
Pour l'instant, c'est 0-0.
Ouais.
Diane Ampin, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes la sœur du baron Ampin. Il y a cette opération que l'on vient de raconter qui finit par la mort d'un ravisseur. Est-ce que vous craignez, Diane Ampin, à ce moment-là, pour la vie de votre frère ?
Bah, écoutez, il est logique qu'on craigne pour la vie de l'otage. En revanche, on savait depuis 48 heures qu'il y avait une remise de rançon ou un parcours, en tout cas, afin d'arriver à la fausse remise de rançon. On était tous en attente et avec une confiance totale en monsieur Ottavioli,
oui,
à la criminelle.
En la police, mais tout de même, le jeu n'est plus le même. Vous pouvez vous inquiéter vraiment là pour votre frère, parce que il peut être menacé.
Je pense que tout le monde, pardonnez-moi, je vous coupe, mais je pense que tout le monde, à partir du moment où il y a un otage, on se dit bon.
Bien sûr.
Wait and see.
Ouais, c'est ça. André Bizol, qui sont les deux hommes que vous avez interceptés ? Alors, il y a la personne décédée, c'est Duchâteau, c'est un braqueur, lui. Hein.
Mm-hmm.
Et puis, il y en a un plus intéressant, parce que lui, il peut parler. Et on va voir par la suite ce qu'il va dire. Mais
oui.
Il peut parler, c'est Alain Caillol. Oui. Ils sont connus, ces deux hommes ?
Alors, au départ, si vous voulez, et ça, c'est la théorie de Ottavioli, nous ne les connaissons pas du tout. Ni Alain Caillol, ni Duchâteau. Mais théorie d'Ottavioli, quand une équipe va gagner la Coupe du Monde, elle ne confie pas le dernier pénalty à des gens lambda.
C'est pas
oui.
mal ça.
Donc on s'est dit,
c'est
s'ils sont
mal.
Venus... Non mais c'est vrai,
ouais.
S'ils sont venus pour chercher cette grosse somme, c'est qu'ils font vraiment partie de l'organisation.
Ça veut dire que ce sont des hommes de confiance.
Ah, oui. Hein. Voilà.
Mais est-ce que dans le jargon, dont vous les connaissez pas, c'est pas des beaux mecs, comme on dit, c'est pas...
Non, pas franchement. Non, ouais. Pas franchement. Quelques braquages, des années de prison, de l'escroquerie. Non, ces deux-là, non.
D'accord.
Non,
okay.
Pas franchement.
Mais en tout cas, ils sont importants dans le dispositif. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, ce sont les gens qui viennent chercher la rançon.
Ah oui.
Donc il faut avoir une totale confiance
ah
en
oui.
eux. Et ils pèsent lourd dans le dispositif.
Exactement. C'est pour ça qu'on va essayer d'en tirer
alors,
le plus vite possible.
Bien sûr. Alors, et puis on va voir ce que va dire Cayol, mais là, dans l'immédiat, ce que vous cherchez, c'est à savoir qui est dans leur entourage, je suppose. Hein,
oui.
Qui gravite autour de ces hommes.
Tout hein. à fait. Comment celui que l'on a peut nous amener, si on arrive à l'encontre, convaincre à faire libérer le baron, parce que c'est ça l'important de la chose. La rançon n'est pas versée, mais le baron est toujours détenu. Et on voudrait surtout pas que ses copains s'affolent et le tuent avant de se disperser. Voilà.
Au 36 quai des Orfèvres, le commissaire Ottavioli a conscience que le baron Empain court un très grand danger. Exposé à une vengeance, il faut inciter les ravisseurs à libérer leur otage. Ainsi pourront-ils éviter, quoi qu'il arrive, une lourde peine de prison. Après la fusillade de l'autoroute, le commissaire Ottavioli sait qu'une course contre la montre est lancée. Il n'a qu'un seul atout dans sa manche pour débloquer la situation et peut-être retrouver vivant le baron Empain. Il faut faire parler Alain Cayol, le malfaiteur blessé et hospitalisé à l'Hôtel Dieu, salle Cusco, sous bonne garde au cas où un commando décide de le libérer. Cayol n'est pas bavard, mais le patron de la crime lui explique que la partie est d'ores et déjà perdue pour tout le monde. La mort d'Empain ne ferait qu'aggraver les choses. Cayol est intelligent, pragmatique, il se laisse convaincre. Il demande de pouvoir téléphoner sans qu'aucun policier ne regarde le numéro composé. À son interlocuteur, il explique que les flics sont prêts à les tuer, que la rançon ne sera jamais payée et que la seule chance de s'en sortir est de libérer le baron. Personne alors ne sait que les ravisseurs avaient mis cette exécution au vote, la mort du baron. 3 voix pour, 5 contre. Dans la soirée du dimanche 25 mars 1978, après 63 jours de détention, le baron Empain est libéré. Ses ravisseurs l'ont habillé d'un vieux survêtement et chaussé de baskets. Il est placé dans une 4L fourgonnette et trimballé sur plusieurs kilomètres. On le laisse seul, cagoulé dans une espèce de no man's land. On lui glisse un billet de 10 francs dans la main. Quand il ouvre les yeux, il se met à marcher en titubant, épuisé, vers une rue éclairée. Un passant s'écarte devant cet homme qu'il prend pour un ivrogne. Il tombe sur la bouche de métro de la Porte d'Ivry, il prend un billet, descend par hasard à la station Opéra. Il est 21h30. Il téléphone à sa femme et tombe sur une voix d'homme, celle d'un policier, l'inspecteur Murat. « Je voudrais parler à Sylvana, s'il vous plaît. » « De la part de qui ?» demande le policier. « De la part de son mari. » L'inspecteur et l'épouse filent place de l'Opéra, Empain est sur le terre-plein, à gare. « Sylvana, Sylvana, quel cauchemar, c'est affreux, dit l'ex-otage. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi ce que je viens d'endurer. » Diane Empain, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Et vous êtes la sœur du baron Empain. Voilà pour la libération de votre frère. Quel souvenir vous avez de cette libération? Comment l'apprenez-vous?
On l'apprend immédiatement, monsieur Claude Cancès, à qui j'avais demandé... sachant qu'il y avait un risque qu'il soit tué, de m'indiquer quel allait être le résultat, pardonnez-moi de cette expression, car je ne souhaitais en aucun cas que ma mère apprenne éventuellement s'il y avait un décès par la presse. Donc Claude Cancès m'a appelé et immédiatement m'a dit « il est libre ». Ce que j'ai donné l'information à ma mère immédiatement. Voilà.
Alors, Diane Empain, vous allez évidemment rencontrer votre frère, aller le voir. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Quel est l'homme que vous allez retrouver?
D'abord, je n'ai pas voulu le rencontrer immédiatement, puisque nous ne sommes pas une famille très chaleureuse. Chacun avait sa vie. On ne va pas se précipiter à l'embrasser en disant « t'es en vie ». D'abord, il faut qu'il retrouve ses marques, qu'il retrouve sa vie, sa famille. Immédiatement, je l'ai eu au téléphone puisqu'il m'a appelé. Maintenant, laissons-le récupérer, échanger, bref, essayer de retrouver une vie.
Vous le verrez quand, Diane Empain?
Moi, je le verrai à l'hôpital américain.
D'accord. Donc, c'est un homme qui est affaibli quand même. Hein, il a perdu beaucoup de poids.
Oui, par rapport à ce qu'il est, mais en revanche, il avait un très beau visage en disant « je suis là », il était... Il nous apaisait de la manière dont il parlait. Voilà.
D'accord. Oui, il y avait pas de, il y avait cette espèce de presque de placidité chez le baron Empain qui est très surprenante. Moi, je l'avais rencontré quelques années après son rapt. On a fait des interviews ensemble. Il y avait toujours ce calme très impressionnant de sa part. André Bizeul, vous êtes le commissaire qui avait mené cette enquête. Alors, on retourne à l'enquête là. Il y a ce coup de maître, on peut le dire, du commissaire Ottavioli, là, hein, du patron de la crime, qui réussit à retourner finalement cet Alain Cayol et à le faire appeler ses copains pour dire ça suffit maintenant, arrêtez les conneries, il faut libérer le baron, c'est ça?
Oui. En fait, on l'avait un petit peu conditionné, si vous voulez. Moi, j'étais allé le chercher à l'hôpital et avec un autre inspecteur, on lui avait fait une petite tournée dans Paris avant d'arriver au 36, où on lui réitérait un petit peu ce qu'il avait vécu sur l'autoroute, c'est-à-dire qu'en fait, on lui faisait croire que sa vie nous appartenait. Mmh. Bon. Que la seule façon de s'en sortir, c'était d'aller au contact du grand patron et de suivre ce qu'il allait lui demander. Ce qu'il a fait. Mmh. Il a bien compris. C'est un type intelligent.
Oui, c'est intelligent. Hein.
Donc, et là, il a compris, parce que Ottavioli lui a bien expliqué, plus vous allez nous donner d'éléments favorisant un retour du baron vivant, plus les juges et les jurés aux assises en tiendront compte pour abaisser, enfin, si vous voulez...
seront indulgents.
Voilà, quoi, hein. pour une indulgence. Ça, elle l'a bien compris. Donc, il a passé les coups de téléphone. Et ça a été effectivement fabuleux, parce que, évidemment, on l'a un peu trompé. Il croyait qu'il appelait d'une ligue directe, etc., oui, etc.
Là, vous avez mis le téléphone sur écoute,
alors
c'est ça
que, hein. Et il faut quand même qu'on ait, n'est-ce pas, quelques astuces pour contourner. Et on a enregistré les numéros, et la DST a mis du temps.
Voilà, c'est ça. C'est bien expliqué dans votre livre, c'est que la DST, le contre-espionnage...
Ils ont mis du temps. Mais en fait, ils ont trouvé quand même trois lieux dans lesquels on avait des éléments.
Ça va vous permettre, alors vous allez évidemment pister ces ravisseurs, puisqu'ils sont dans la nature à ce moment-là,
oui, hein,
7, 8, 6, on ne sait pas trop, ils sont dans la nature, vous allez les pister avec notamment ces points de chute téléphoniques.
Voilà, les points de chute téléphoniques, où on va trouver des endroits où ils sont passés, où on va trouver une planque, et on va trouver surtout le dernier lieu de séquestration.
Ouais.
Parce que le numéro de Savigny-sur-Orge, c'est là qu'il a passé les trois dernières semaines.
C'est un pavillon, c'est
ça ? C'est un grand pavillon, rez-de-chaussée, étage, sous-sol, et là... D'ailleurs, lorsqu'il est venu pour la reconstitution, on a mis des inspecteurs à jouer les personnages qui auraient pu évoluer dans le pavillon. Il a reconnu tous les bruits pas, de conversation, de télévision. Il a retrouvé des romans policiers dans la poubelle. Enfin bref, on avait vraiment ce qu'il nous fallait. Il était temps parce qu'on avait peur qu'ils organisent leur anonymat avant nous, avant qu'on les trouve.
Bien sûr, et que là, ils disparaissent quasiment à jamais.
Voilà.
Encore un petit mot, vous parlez du pavillon, le dernier lieu de détention. Le premier, c'est une champignonnière, c'est ça
Alors, le premier, c'est une champignonnière, oui. Ce sont des galeries qu'on a retrouvées.
Bon. En région parisienne, évidemment.
Oui. Le second, on n'a pas réussi à le trouver.
On l'a jamais trouvé.
Non.
Ce fameux grenier.
Tous les éléments que nous donne le baron correspondent à une ferme à côté d'un village. Et Cayol, lui, dit que c'est un appartement parisien. Peut-être maquille-t-il la vérité. Bref, on n'a pas le deuxième. Et le troisième, c'est Savigny.
Le baron Empain n'est plus qu'une ombre. Il a perdu 20 kilos, un temps hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly. Au total, ce sont 6 hommes et 2 femmes qui vont être arrêtés, écroués et renvoyés devant une cour d'assises. Le 2 décembre 1982 s'ouvre à Paris le procès du rapt du baron Empain. 16 jours d'audience sont prévus. À son arrivée, l'industriel est assailli par les journalistes et les photographes qui cherchent à avoir une image de son petit doigt amputé. Édouard Jean Empain est calme, mesuré. C'est la première fois qu'il découvre le visage de ses ravisseurs, 6 hommes et 2 femmes. Il y a là les frères Cayol, François et Alain, ou encore Georges Bertoncini, dit Jo le Marseillais. Leurs avocats les présentent comme de simples exécutants, pas de cerveau parmi eux. Le commanditaire, le vrai, serait dans la nature. On tente aussi de faire porter le chapeau au gangster mort, Daniel Duchâteau. Le baron n'accable pas les accusés. À ma libération, dit-il, je ne savais plus qui étaient les bons et qui étaient les méchants. J'aurais très bien pu, à la fin de mon cauchemar, devenir moi-même un bandit. Les ravisseurs indiquent avoir choisi Empain par défaut. Ils voulaient au début enlever Marcel Dassault ou Liliane Bettencourt. À l'heure du verdict, les peines les plus sévères vont s'échelonner entre 15 et 20 ans de réclusion. Édouard Jean Empain va abandonner la tête du groupe Empain-Schneider et divorcer de Sylvana. Dans une interview, il déclare « Je ne peux plus faire confiance à personne parce que je n'ai jamais réussi à savoir ce qui s'était passé pendant ma séquestration ». Il ajoute que seul son labrador, baptisé Love, avait été heureux de le revoir. Le baron Empain est décédé le 20 juin 2018. Il était âgé de 80 ans. Diane Empain, sœur du baron Empain, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous étiez évidemment à ce procès. Que retenez-vous de ce procès ? Qu'est-ce qui vous a marqué à cette audience de la cour d'assises ?
Heureusement, j'avais été préparée par Monsieur Bizeul en m'expliquant vraiment les gestes et surtout essayer d'être sereine. Je crois que ce qui a été très terrorisant, c'est surtout pour ma mère, qui s'est trouvée dans une réflexion en disant « J'ai mes deux enfants dont le visage va être découvert dans ce procès d'assises. » Ça a été quelque chose qui m'a marquée. En revanche, le procès en tant que témoin est quelque chose où on se dit « il faut faire très attention, car je savais qu'il souhaitait déstabiliser la famille en disant ils ne s'entendent pas bien, il y a des soucis avec les uns et les autres. Donc ça, je l'avais bien compris. Maintenant, la sortie du procès est terrifiante parce que vous savez.
Alors un mot là-dessus, Diane Empain, quand même, parce que effectivement, votre frère, il va tout lâcher dans cette affaire. C'est une histoire qui a bouleversé sa vie, qui l'a cassé en deux.
Oui, absolument. Maintenant, c'est un homme très très fort qui a le recul, qui a l'observation, puisque c'est ce qui lui a permis aussi d'être en vie et d'être à côté des ravisseurs. Maintenant, ce qui m'a frappé, on a parlé de ce procès, surtout lui, il a évoqué en me disant « Tu sais, j'ai vu tout le monde passer à la barre, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont été courageux. » En parlant du groupe.
Oui, mais je comprends bien. Et c'est là-dessus que, effectivement, il va porter. C'est pas de l'amertume, mais il y a cette espèce de colère rentrée. Il n'a pas compris qu'on finalement on ne s'occupe pas de lui. Il a eu le sentiment qu'on l'avait laissé tomber totalement.
Pardonnez-moi, c'est une certaine lâcheté. Tout simplement, je pense que parce que sa vie privée avait été mise à nu, la famille, tout de suite, au secours, y joue, tout ce qui s'est passé, on l'a catégorisé de cette manière-là. On a complètement oublié ce qu'il avait vécu.
Bien sûr,
Durant 63 jours. Et ça a été notre grand tort à toute la famille, enfin en tout cas aux proches.
Et ce qu'il a enduré, d'ailleurs, il le racontera dans un livre qui est très émouvant, où il raconte vraiment dans le détail cette détention qui est absolument terrifiante. André Bizeul, je vous pose évidemment la question. Vous êtes à ce procès, vous allez venir témoigner. À ce procès, vous êtes appelé, vous avez été le commissaire qui a mené l'enquête. Qu'est-ce que vous racontez alors à ce moment-là ?
Alors en fait, je raconte toute l'enquête. Dans ces procès d'assises, le grand patron Ottavioli vient dresser l'ensemble de l'enquête et moi je fais tout le détail. Bon, je raconte toute l'affaire en détail, c'est quand même compliqué et au bout de 2 heures, entendu avec Ottavioli et le parquet, je lâche un bloc de pierre, c'est-à-dire que je raconte les confidences de Cayolle, ce qui était impossible à mettre dans la procédure parce qu'on n'avait pas le droit de l'entendre sur l'enlèvement. Et là, Cayolle réagit très mal, les avocats font tout un cirque, sauf que Cayolle lâche, c'était des bavardages. Bref, le président interrompt l'audience et au bout d'une heure, il fait revenir les jurés et il leur dit « Vous pouvez tenir compte de tout ce qu'a dit le commissaire ». Or, j'avais dit ce qui établissait Cayolle depuis le début de l'affaire. Ouais. Comment ils avaient choisi le baron Empain, etc. Les peines sont passées de 8 ans à 20 ans. Ouais. Donc ça a été un moment intéressant.
Ils n'ont pas dû vous remercier.
Mais c'est vrai que ce que dit Diane est tout à fait vrai. Le groupe protège ses intérêts financiers. Que l'on dise dans la presse que ce monsieur a des maîtresses, que ce monsieur a des dettes de jeu, que ce monsieur a engagé éventuellement le groupe dans des affaires hasardeuses, eux, ils ne supportent pas. C'est pas des gens humains, ça. Ils ne voient que l'intérêt du groupe. Donc, ils le jettent.
Vous le voyez évidemment, le baron Empain, ce procès, hein,
oui,
en chair et en os. Vous l'aviez rencontré auparavant,
oui,
pour une espèce de débriefing.
Au moment de, voilà, hein, au moment de sa libération.
Quel oui. contact vous avez eu avec lui? Comment vous est-il apparu?
Eh bien, écoutez, il m'est apparu comme quelqu'un de, franchement, de normal. Je peux pas dire mieux. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui vit normalement sa vie. Il y peut rien, lui, d'être né avec de l'argent, mais il n'a jamais cherché la notoriété. Il a assez privilégié la vie de famille, les amis de la chasse, les amis du jeu. Bon, il vivait une vie normale de quelqu'un de sa classe, quoi. Rien d'exorbitant. Et je le trouvais vraiment sain d'esprit, avec un bon raisonnement. Et ce qui m'a surtout plu, c'est qu'à deux reprises, et ça je m'attendais pas à ça de lui, il a fait référence à sa croyance religieuse. D'abord en donnant le pardon, c'est vrai, à ses ravisseurs, ouais. Et en l'expliquant que si on est catholique, le pardon ça existe, et puis en disant qu'il avait beaucoup prié pendant sa détention. C'est pourquoi j'avais demandé à Diane et aux enfants si je pouvais prononcer quelques mots à son enterrement, parce que vraiment, il méritait de l'empathie et il méritait pas du tout le sort qui lui a été fait par des gens vraiment injustes à son égard.
Diane Empain, encore un petit mot, très court s'il vous plaît, parce qu'on va arriver à la fin de l'émission. Il en avait un petit peu marre, le baron Empain, d'être toujours le baron aux doigts coupés.
Oui, et puis surtout au jeu aussi. Enfin, le doigt coupé est une chose, c'était surtout une curiosité. En revanche, d'avoir joué, ça c'était, on avait tous cette catégorie-là. On oubliait tout ce qui avait été fait auparavant sur le plan familial. C'était le jeu. Voilà.
C'est-à-dire le jeu, les casinos, etc. André Bizel, vous avez le mot de la fin très rapidement. C'est une enquête exceptionnelle, c'est qui a marqué votre carrière de commissaire.
Tout à fait. Ma carrière de commissaire, parce que, comme vous dites, elle était exceptionnelle, qui m'a permis d'ailleurs de garder un grade avant tout le monde, mais surtout, si vous voulez, parce que cette détermination de Pierre Ottavioli, alors que les enlèvements augmentaient en nombre un peu partout, a arrêté la série. Et que là, franchement, il a démontré à ce que nous étions, nous, de la brigade criminelle, et à ce qu'étaient les gens de la BRI, la personnalité d'un patron que tout le monde admirait et qu'on avait un peu envie d'être plus tard, quoi. Voilà.
Merci beaucoup André Bizel et Diane Empain d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire du baron Empain, un rapt spectaculaire, une affaire qui a marqué la mémoire policière est bouleversée, la vie d'un homme courageux, il faut le préciser et le répéter, Édouard Jean Empain. Je redonne André Bizel le titre de votre livre qui paraît demain chez Mareuil Éditions, Empain, le rapt à lire absolument. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset à la réalisation, un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.